Bonjour à toutes et à tous et merci. Je suis ravie d'animer cette première table ronde sur les radios associatives, actrices utiles à la vie démocratique des territoires. Alors on m'a demandé de me présenter un peu avant, donc je suis Charlotte Velty, je suis cofondatrice et codirectrice de l'Onde Porteuse. Je remercie les locales via la CNRA et le SNRL qui m'ont proposé d'animer cette table ronde et qui me donnent l'occasion de présenter rapidement la structure que je codirige aujourd'hui. L'Onde Porteuse, c'est un média associatif, un média inclusif, une radio associative qui s'appuie sur le secteur de l'insertion par l'activité économique. On a développé un modèle unique en France en s'appuyant sur des ateliers chantiers d'insertion. Et donc aujourd'hui, on connaît une situation avec deux secteurs qui vont pas très bien, mais en tout cas qui vont très bien ensemble. En 2017, on a créé le premier atelier chantier d'insertion dédié aux pratiques du journalisme, c'est-à-dire qu'on permet à des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi de venir faire de la radio avec nous, d'avoir un vrai contrat de travail et en parallèle d'être accompagnées socialement pour retrouver un emploi et utiliser les pouvoirs magiques de la radio. Ces pouvoirs magiques, on a pu faire les exercer avec auprès de 350 personnes à Nantes et à Clermont-Ferrand. Et maintenant, on essaie de redonner, voilà, par la radio, la confiance aux personnes qu'on accompagne et pour qu'ils retrouvent une meilleure place dans la société. Chaque jour, les contenus qui sont produits sur l'Onde Porteuse sont produits par nos salariés en insertion, et le fait d'avoir une fréquence à Clermont, en DAB+, et à Paris, c'est l'occasion pour le grand public d'écouter d'autres voix et d'écouter aussi des formats un peu différents. Et c'est ce qui colle très bien avec la radio associative. Pour cette table ronde, je me suis beaucoup nourrie de la lecture de l'enquête de la Fondation Jean Jaurès « Vers des déserts médiatiques en France, la démocratie peut-elle survivre sans médias ?» Ça a nourri ma réflexion et donc ça va aussi guider ce débat, puisque notre problématique colle bien avec les radios associatives actrices utiles de la vie démocratique des territoires. Merci à nos invités d'être présents pour cet échange. On va commencer par Oriane Delbar, bonjour. Alors vous êtes adjointe au maire en charge des affaires culturelles de la ville de Douai depuis 2020 et récemment réélue. Donc on parlera ensuite de chacun des territoires, vous allez voir que ça fait un joli panel et des belles initiatives. À vos côtés, Eva Gernot, directrice adjointe de Sun, radio associative en Pays de la Loire. Bonjour Eva.
Bonjour.
On a également Denis Lépiot, président de Radio Kaolin dans le Limousin, directeur éditorial du Graal, groupement des radios associatives libres en Limousin et en Périgord. Bonjour. Et Pierre-Louis Dupré, formateur en éducation aux médias et à l'information à Radio Laser à Guichen, en Bretagne.
Bonjour.
Pour commencer, j'aimerais que chacun et chacune vous puissiez, en quelques mots, nous présenter votre territoire, les espaces géographiques et médiatiques dans lesquels vous les évoluez et en quoi vos radios associatives sont des médias locaux et qu'on prenne le pouls de vos territoires. On commence par Radio Laser.
Oui, volontiers. Radio Laser, donc 34 ans d'existence sur le territoire donc de Guichen-Pont-Royan, donc c'est au sud de Rennes, donc dans une zone périurbaine et rurale. Elle a 5 piliers, cette radio. Informer, éduquer, faire du lien et donner la parole. Ça fait 34 ans qu'on donne la parole, 34 ans qu'on rencontre les citoyens. On raconte notre territoire avec eux, on met en lumière la vie économique, sociale et culturelle, les associations, tous les acteurs.
Et au niveau des radios associatives et des médias locaux, comment, quel est le pouls? Vous êtes pas loin de Rennes?
On n'est pas très loin de Rennes, on est à quasiment 20-25 minutes de Rennes.
Donc on n'est pas dans un désert médiatique, mais on est dans une ville qui a besoin aussi, avec 40 000 habitants, d'avoir des acteurs comme Radio Laser. Pour Sun, alors là on est sur un épicentre qui se trouve à Nantes, mais qui s'est bien développé, Eva?
Oui, donc Sun est une radio qui a fêté cette année ses 30 ans, qui est née en région nantaise donc en 1996, et qui depuis une dizaine d'années maintenant essaime son projet sur la partie ouest de la région. Donc on est aujourd'hui nous présents sur les villes de Cholet, d'Angers et de Saint-Nazaire. L'idée étant en fait d'accompagner nous les auditeurs dans leur déplacement. Donc en fait cette dynamique d'ouvrir de nouveaux studios reposait là-dessus, avec pour commencer donc une installation à Cholet en 2016, puisque de nombreuses personnes habitaient Nantes ou travaillaient Nantes, et inversement soit habitaient Cholet ou travaillaient Cholet, et ces personnes-là nous perdaient. Donc la radio ayant vraiment un rôle d'accompagnement de ces auditeurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles donc aujourd'hui, nous sommes une radio régionale. Sun, c'est plus d'une centaine de bénévoles aujourd'hui, accompagnés par une équipe de 7 salariés sur un certain nombre de sujets. Je peux en nommer 3 grandes thématiques d'ores et déjà. Donc une très forte implication sur l'aspect culturel, musical, étant une radio de défrichage. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, Sun va mettre en avant chaque mois, par exemple, 200 nouveautés musicales, donc un très gros travail de programmation, avec une programmation collégiale, donc qui est à l'image aussi de nos équipes, des bénévoles qui nous rejoignent, et qui du coup est le reflet aussi bien de cette diversité de propositions musicales que cette diversité de gens qui écoutent cette musique et qui donc nous la proposent dans notre radio. Une deuxième thématique est l'aspect éducatif. Nous, en matière d'éducation aux médias et l'information, ça fait de nombreuses années qu'on mène des actions, et ces actions-là, du coup, on est venu les coupler depuis 6 ans maintenant avec un projet de médias jeunesse qui s'appelle Sun Junior, qui est aujourd'hui une web radio, donc un flux 24 heures sur 24, qui vient proposer un média dédié aux jeunes, donc sur une échelle de 6 à 15 ans. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un média qu'on puisse écouter en famille, puisqu'aujourd'hui, il existe très peu, voire pas, de propositions en ce sens. Et l'idée n'étant pas soit d'infantiliser du coup nos jeunes avec un média, ni d'exclure du coup les parents de l'écoute de ce média-là. Et une troisième thématique très importante aussi que nous portons avec le projet Sun relève de l'innovation, puisque depuis ses débuts, Sun est très très impliqué dans le développement de notre média radio d'un point de vue technique, et a notamment été très impliqué sur la question du DAB et aussi la numérisation d'un point de vue général plateforme de nos médias.
Denis Lépiot, là on part dans le Limousin pour avoir un peu un panorama des radios du Graal et aussi de Radio Kaolin. Dans quel secteur et quel est le pouls de ce territoire ?
Alors pour commencer par parler de Kaolin, c'est une radio qui aujourd'hui comprend 3 services, 2 en FM et 1 en DAB, qui émet à partir du département de la Haute-Vienne, de l'ouest et du sud-ouest de la Haute-Vienne, sur les départements de la Charente, de la Dordogne et de un petit peu sur la Corrèze. Donc c'est un bassin de population pour ce qui est sur la zone historique, qui est environ de 130 000 habitants, et c'est une radio qui fait approximativement une 60aine de milliers d'auditeurs cumulés selon l'étude public des associatives Médiamétrie. Voilà. C'est une radio qui a failli disparaître au milieu des années 90. Elle avait choisi d'être une radio commerciale de catégorie B, nous avons repris cette radio à partir de 1996 avec un nouveau projet associatif, un nouveau projet éditorial basé d'une part sur la découverte musicale et d'autre part sur l'info de proximité, et une info de proximité de qualité. Et en fait, Kaolin est une des radios cofondatrices du groupement des radios associatives à l'origine du Limousin, le Graal, qui est devenu le groupement des radios associatives libres après la fusion entre les 3 régions Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, puisqu'on a voulu aussi affirmer que nous étions à une 15aine de services radiophoniques aujourd'hui, les héritières du mouvement des radios libres du début des années 80.
Oriane Delbar, alors vous êtes élue à la mairie de Douai, mais évidemment vous avez une relation particulière avec Radio Scarpe Sensée. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'espace géographique dans lequel se situe cette radio et cette dynamique ?
Donc c'est mon deuxième mandat en tant qu'adjointe aux affaires culturelles pour la ville de Douai. Donc Douai, ancienne capitale du bassin minier. Ce que j'ai pu constater, c'est que on place en tout cas notre volonté, c'est de placer la jeunesse au cœur de tous nos projets. l'émancipation, la citoyenneté, la liberté d'expression, la liberté de penser. Et forcément, donc, de fil en aiguille, l'éducation aux médias, à l'information, prend une place essentielle dans tous les projets qu'on peut mener. Et quand on propose des projets où les jeunes sont acteurs, on arrive à découvrir beaucoup de talents et la radio, donc Radio Scarpe Sensé, nous accompagne dans tous les projets, dans toutes les associations. On a un festival qui s'est installé dans notre ville en 2020 qui s'appelle le FIGRA, donc le Festival International de Grands Reportages d'Actualité et de Documentaires de Société, donc qui place les journalistes au cœur de l'investigation. Parrainé par Hervé Brusigny, donc porter la plume dans la plaie. Mais au-delà de tout ça, au-delà de la recherche peut-être de la vérité, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la vérité ? On fait vraiment un travail auprès des plus jeunes, auprès de tous les publics, éloignés ou pas de la culture, de tous les habitants, de tous nos citoyens, de tout le territoire. Et Radio Scarpe Sensé est quelque part devenu aussi... une archive vivante du territoire, parce que forcément qu'il a interrogé tous les acteurs au cœur de manifestations syndicales, au cœur des élections municipales, départementales, régionales, législatives, les présidentielles. C'est une radio qui est présente dans toutes nos manifestations culturelles, dans toutes nos manifestations associatives, et qui récolte simplement, humainement, toutes les paroles de toutes les personnes qu'on peut croiser, même les personnes qu'on ne verrait pas, et qui arrivent à faire vivre ce que c'est notre société. Donc évidemment que cette radio associative a un rôle fondamental dans notre cité. On a le label Cité éducative, ça me fait penser à ça. L'éducation à l'information, ça passe aussi par les prises de parole, une prise de parole et une prise de pensée construite. Et la radio joue un rôle fondamental dans ça.
On va aller dans le détail au fil de cette table ronde. Les radios associatives, vous l'aurez compris, couvrent l'ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin, et sont aussi le premier réseau de médias à avoir un maillage aussi fin et complet. Il s'agit, quand on questionne l'utilité démocratique de nos radios, il s'agit aussi d'interroger le lien avec les habitants, les auditeurs et les auditrices du territoire et de ses acteurs. Vous en avez un peu parlé, Oriane Delbar, sur la question de la mémoire. Moi, quand on a échangé ensemble, il y a une des choses que vous m'avez dit qui était cette utilité très forte de la radio associative, c'est qu'on ne pourrait pas faire sans cette radio associative et sans les radios associatives. Moi, j'avais une question très précise sur la question de la mémoire du bassin minier et les nouveaux arrivants. Comment cette radio s'engage sur ces questions et comment, en fait, finalement, ça contribue à un meilleur accueil des personnes qui arrivent ?
J'ai envie de vous dire, pour savoir qui on est, on doit savoir d'où on vient, et de permettre de valoriser l'histoire de chaque individu est essentiel pour que l'individu puisse prendre aussi sa place dans notre ville. Je veux dire, le monde est en perpétuel mouvement. Il y a des personnes exilées qui arrivent sur nos territoires, et les aider à comprendre, les aider à valoriser aussi leur histoire, leur parcours, ça les aide aussi à s'intégrer dans la société. Et c'est vrai que la radio, elle a cette particularité, en tout cas les radios associatives, la nôtre sur notre ville, elle fait ça merveilleusement bien. En lien avec les précédentes générations qui étaient sur notre territoire, évidemment. Donc beaucoup de mineurs, en tout cas pour ce qui me concerne.
Alors, quand on parle du territoire, il y a ces questions d'expansion, chose que Eva, tu as nommée tout à l'heure en parlant des Pays de la Loire. Donc, ça fait 10 ans qu'il y a l'installation qui est faite sur Cholet pour notamment assurer la continuité d'écoute. Quel service ça amène aux auditeurs et quel changement ça a impliqué aussi pour la radio en termes que ça soit de professionnalisation, d'équipe ?
Oui, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles on s'est installé sur Cholet et dans les Mauges relevait déjà de l'accompagnement à l'écoute des auditeurs dans leurs déplacements. Et la seconde raison était aussi que ce territoire est globalement dépourvu de médias locaux. Donc il y avait une vraie attente, certes culturelle à ce niveau-là, médiatique, mais aussi une très forte attente éducative, puisque de fait, s'il n'y a pas de médias, il y a peu d'acteurs pour faire de l'éducation aux médias. Cette raison-là était très importante aussi dans l'accompagnement et les raisons pour lesquelles on s'est installé. Et c'est du coup aujourd'hui, depuis Cholet, qu'on porte tout notre projet d'éducation aux médias et tout notre projet de médias jeunesse Sun Junior, dont j'ai pu vous dire quelques mots tout à l'heure. Donc en termes de de changement d'un point de vue structurel, d'un point de vue d'équipe. Déjà on change de territoire. Nous aujourd'hui on est implanté donc sur à l'origine sur Nantes. Les autres territoires sur lesquels on est, que sont Cholet, Saint-Nazaire, Angers, sont des territoires pas si loin. Voilà, on est ils sont entre 60 à 80 kilomètres les uns des autres, mais on est sur des territoires qui ont chacun leur particularité, que ce soit d'un point de vue culturel, politique, économique aussi. Donc c'est vrai que pour nos équipes, ça a été aussi des nouvelles formes d'approche à avoir, une nouvelle analyse des territoires sur lesquels on est, une adaptation à nos publics, et donc en conséquence aussi une adaptation de nos actions, nous, qu'on a pu développer sur la formation, sur l'accompagnement de nos auditeurs et de tous les projets éducatifs qu'on a pu mener.
Au niveau du Graal, Denis Lépio, au niveau de l'éditorial, vous avez aussi mis en action avec le Graal des programmes mutualisés, des productions pour pouvoir en fait répondre aussi à ces besoins de territoire.
Oui, le Graal en fait c'est aujourd'hui deux décennies, 20 ans d'expérience avec un modèle économique qui est particulier et un modèle éditorial qui s'est peu à peu construit. Le modèle économique, avant de passer au format, hein, le modèle économique c'est d'abord une cotisation de chaque service radiophonique avec une part du chiffre d'affaires message d'intérêt collectif qu'on a décidé de commercialiser de manière groupée, mutualisée. On a mutualisé l'info, mais on a aussi mutualisé la commercialisation des messages d'intérêt général collectif. Et également, ça repose aussi sur l'apport en industrie, comme on dit en comptabilité, hein, des sons et des productions de chacune des radios membres qui disposent d'un journaliste ou d'un ou plusieurs journalistes titulaires d'une carte de presse.
Ça aussi, c'est une spécificité que vous avez. C'est l'importance d'avoir des journalistes dans les radios du Graal.
Oui,
est-ce que vous pouvez nous parler de cette réflexion que vous avez menée et en quoi ça amène aussi les radios associatives au même niveau que des radios du service public qui ont des journalistes sur le
Graal? Alors, c'est effectivement un modèle éditorial qui repose sur une conviction, c'est que l'information locale, comme l'information, est un bien commun et qu'il faut qu'on la traite de manière très professionnalisée. Donc, On est monté en compétences à partir du début des années 2000 dans l'ensemble des radios et on a renforcé ces compétences au point qu'on a eu jusqu'à une dizaine de cartes de presse sur l'ensemble des services radiophoniques avec des journalistes en CDI, donc dans une situation de non-précarisation et donc s'installant sur le territoire et capable de travailler dans la durée, ce qui a énormément effectivement apporté à la qualité de l'information qu'on a produit et qu'on continue à produire. On a fait appel à des écoles reconnues par la profession pour accompagner cette montée en compétences, à tel point qu'aujourd'hui, on est devenu une structure passage obligé pour quantité de stagiaires, soit qui viennent chez nous faire des formations en alternance, qui viennent compléter les équipes journalistiques pour un temps, et également pour nombre de jeunes qui viennent soit préparer les écoles de journalisme, soit voir ce qu'est le journalisme, et éventuellement, par ce biais-là, en passant quelques temps dans nos radios, voir si ça correspond vraiment à ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc c'est quand même un modèle vertueux. Je connais pas d'équivalent sur le territoire en Hexagone en tous les cas. C'est un modèle qui fonctionne suffisamment bien pour que les 15 premières années de l'existence du Graal, on se soit heurté à une attitude extrêmement véhémente de la part du service public qui voyait en nous une concurrence. Alors, depuis 5 ans, ça a un peu changé, puisque, en fait, ils sont davantage dans une logique de coopération avec les radios du Graal, considérant que le maillage du territoire, des territoires par les radios associatives était infiniment supérieur à celui qui est le service public. Et bon, de notre côté, on a toujours considéré que la mission qui était la nôtre était une mission d'intérêt public, d'intérêt général, qui était complémentaire de celle du service public.
Effectivement, peut-être le dernier kilomètre, les derniers kilomètres ne peuvent pas être faits par le service public pour plein de raisons. Et en fait, les radios associatives, comme on le disait tout à l'heure, ont des fréquences, ont des équipes, ont des bénévoles et des journalistes et des
Charlotte,
salariés
juste, sur les territoires. De manière complémentaire, c'est que nous, on travaille des formats que ne travaille pas nécessairement le service public.
On va y revenir, voilà, sur les formats. Pierre-Louis, pour Radio Laser, parlons des formats. Des formats, donc les radios associatives, des formats inventifs, des manières de faire de la radio autrement, aussi dynamique, des formats où on va prendre le temps, et Denis, vous nous en parlerez. Pour Radio Laser, vous avez reçu en 2025 le prix des Assises du journalisme de Tours dans la catégorie médias associatifs, avec un projet qui s'appelle Radio Ado, et vous avez développé un projet avec des jeunes en situation de handicap qui sont dans un IME. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure? Parce que là aussi, c'est les pouvoirs magiques de la radio et qui font du lien social et qui font que la radio a finalement encore plus de sens sur le territoire.
C'est ça, donc Radio Ado, donc, qui s'est développé en 2016, donc à mon arrivée à Radio Laser. Pour le coup, on a en même temps lancé ce premier projet qui était pas, au début c'était plutôt des ateliers de sensibilisation aux médias et qui s'est transformé petit à petit avec l'envie des éducatrices, des enseignants qui encadraient donc les jeunes et puis le professionnel de la radio. On a trouvé que c'était intéressant de former beaucoup plus de jeunes à ce que c'était, qu'est-ce que c'est les médias, comment on les utilise, qu'est-ce que c'est une information. Et on a rencontré, là, sur les 10 ans, à peu près 160 jeunes qu'on a formés de cet institut médico-éducatif.
Est-ce que vous pouvez aussi expliquer la situation de ces jeunes? Parce que ils sont tous différents et ils travaillent tous ensemble aussi sur un projet.
C'est ça. Alors, les jeunes...
Quelqu'un qui n'est jamais allé dans un IME, quel est le rythme? Comment ça se passe?
Alors, déjà, pour ceux qui font partie donc, de Radio Ado, il y a quand même des prérequis pour entrer. Il y a aussi une envie de découvrir les médias, aussi une envie de se professionnaliser aussi, parce qu'ils regardent les réseaux sociaux, donc ça leur donne envie. Ensuite, pour le rythme, on intervient sur des journées, des fois des après-midi complètes, et il y a toujours un encadrement à trois, donc l'enseignante, l'éducatrice, et puis le professionnel de la radio. Et depuis quelques années, en fait, on leur met des objectifs. Ça veut dire que tous les lundis, nous, on les voit, et donc on doit essayer de produire une émission, on doit essayer de travailler aussi sur des thématiques qui leur parlent, et on a travaillé également sur la laïcité, parce que c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas, vraiment conscience. Voilà, on n'a pas posé les mots, en fait, avec eux sur ce que c'était la laïcité, et ce projet, en fait, l'outil radio, les a aidés, en fait, à comprendre ce que c'était. Donc on a travaillé avec une enseignante sur ces thématiques-là, et puis ils ont fait une série de podcasts. C'est quoi la laïcité
aussi, qui a été aussi primé.
C'est ça, qui a reçu donc un prix par le ministère de l'Intérieur, le prix de la laïcité. Et c'était une sacrée victoire parce qu'ils ont réussi en fait à adapter ce qu'ils ont appris pour aussi former les autres jeunes de l'IME. Parce que le but c'est de se comprendre, et il faut se comprendre aussi avec leur langage à eux. Et c'était vachement intéressant parce que pour le coup, là, bonne partie de l'établissement a été sensibilisée à leur podcast.
On reste avec les jeunes, avec Sun Junior, donc une web radio, comme tu le disais, Eva, dédiée aux 6-15 ans et aux parents aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Sun Radio et sur ses envies aussi d'expansion?
Donc pour commencer sur la partie junior, donc oui, ce projet junior a vraiment deux volets qui est parti donc à l'origine de nos actions d'éducation aux médias et qu'on est venu du coup asseoir avec un projet vraiment de médias dédiés aux jeunes, une antenne radio avec une programmation musicale, une programmation de contenu et cette programmation de contenu s'appuie donc sur les productions qu'on fait nous dans le cadre de ces actions de MI. Auprès des jeunes, mais pas que, aussi auprès des encadrants, puisqu'il est très important aussi de former les gens qui entourent ces jeunes. Et s'appuie aussi sur, du coup, de nombreuses collaborations au local avec des structures de production jeunesse, des structures éducatives. L'idée aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes, mais aussi d'être aux côtés de toutes ces structures, de toutes ces personnes qui s'investissent en faveur des jeunes sur les différents territoires sur lesquels on se trouve. Et ensuite, c'était plutôt sur le
fait d'être en web radio et c'est peut-être ses envies d'être au-delà de la web radio.
Oui, bien sûr. aujourd'hui, nous, on est plutôt dans une démarche de rendre accessible au plus grand nombre ce média, donc notamment en demandant une fréquence hertzienne. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on expérimente déjà par le biais d'une fréquence temporaire qu'on a depuis plusieurs années sur la période des fêtes de fin d'année, sur la zone de Nantes en DAB, pour pouvoir justement accompagner ses enfants, ses familles, sur les temps forts de fin d'année qui sont des temps très importants en famille et sur lesquels, en fait, on rend, sur ces temps-là, on va pouvoir rendre visible auprès du plus grand nombre tout ce travail, en fait, éditorial qui peut être fait sur le territoire en faveur des jeunes.
Vous l'aurez compris, les radios associatives font aussi des choix éditoriaux qui leur sont propres, s'adresser aux jeunes, produire avec les jeunes dans différentes actions, et aussi changer un peu de format là où le service public n'a peut-être plus trop le temps, Denis. Les PIO, pour le Graal, c'est le cas avec des reportages, des formats longs. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi cet engagement-là que vous menez ?
Alors en fait, la production hebdomadaire du groupement, c'est un journal quotidien, du lundi au vendredi, d'environ 4 minutes. Et c'est 5 chroniques, qui sont des chroniques de 5 minutes. Et on va remettre en service une émission de 55 minutes qui s'appelle, pardonnez-moi la référence historique, la table ronde du Graal, où on va aborder des sujets de l'actualité régionale du moment. Voilà. Je précise que l'ensemble de ces productions est déposé sur un serveur et chaque radio membre programme ses contenus en fonction de sa grille de programme. Voilà, donc ça n'exclut pas d'ailleurs que chaque radio produise de son côté un journal micro-local avec éventuellement des reportages, etc. Moi, à titre d'exemple, Kaolin a produit en 2025 400 reportages pendant toute l'année, dont certains ont fait l'objet, avec un traitement et un angle un peu différent, de reprises dans les chroniques du Graal.
Dans l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, dont je vous parlais, « Vers des déserts médiatiques en France, la démocratie peut-elle survivre sans médias ?», cette enquête montre l'importance des médias locaux face à l'abstentionnisme. Et notamment la montée de certaines exclusions et de la haine. Oriane Delbar, vous étiez de l'autre côté, du côté des élus, en tout cas des candidats. Comment les radios associatives ont un vrai poids sur ces questions démocratiques ?
Elles jouent le jeu de la démocratie, en fait, dans une élection, dans un territoire, parce que le but, c'est pas de penser à la place des gens. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'images, de fausses images. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les fake news, dans une concentration des médias à l'extrême qui tirent quand même vers la pensée unique. Et de pouvoir échanger, de pouvoir débattre, d'avoir la possibilité de confronter aussi les différents candidats dans une élection, d'avoir un public. Voilà, la radio associative, elle a ce pouvoir-là de pouvoir organiser un vrai débat démocratique au sein de son territoire. Nous, à chaque élection, on a, bon, pas aux dernières parce que c'était un peu particulier la dernière élection municipale dans ma ville, mais sinon aux départementales et autres, on a toujours ce débat des candidats. Et voilà, il y a un vrai débat d'idées qui est organisé et tout le territoire se met en branle pour organiser ce débat d'idées et que les citoyens puissent être éclairés. Et on donne aussi la parole aussi aux citoyens qui ont aussi la possibilité de poser les questions. Et la radio anime le débat avec brio. Et c'est vraiment, enfin, c'est essentiel dans la vie démocratique locale, ces radios. Mais vraiment.
Parce que, selon vous, sinon les citoyens ne pourraient pas avoir accès assez facilement à leurs élus ou à futurs élus pour poser des questions et les interroger.
Dans quel contexte? Effectivement, une période électorale, c'est toujours une période très, très, très chargée où il y a beaucoup de sollicitations de toutes parts. Et nous, dans notre territoire, on a ce temps, les candidats savent qu'ils peuvent être interrogés soit par radio, donc soit par une interview qui se fera en téléphonique, en podcast, où on anime vraiment un vrai débat. On organise un vrai débat avec la radio et avec les différents candidats. Et cet espace-là, il est vraiment essentiel. Dans notre ville, on a aussi une presse locale qui est quand même assez active et qui joue aussi le jeu. Et ces localiers, ils jouent aussi un rôle essentiel dans la vie du territoire et dans la vie démocratique.
Pierre-Louis Dupré pour Radio Laser. Alors pour les municipales, il y a eu une action qui était intéressante et innovante. Vous avez formé une rédaction participative avec des correspondants par vos bénévoles. Racontez-nous ce projet et comment ça a été mis en place.
Ce qui est intéressant, c'est que les citoyens posent des questions à ceux qui se présentent, qui participent en fait à ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a créé en fait avec Radio Laser. On a eu des habitants qui ont joué le jeu au moment des élections, d'aller sur le terrain, aller poser des questions, donner les résultats. Et donc on a pu couvrir plusieurs communes ce soir-là. On a également fait participer donc les jeunes donc de Radio Ado. Hein, ils ont fait des micro-trottoirs. Donc c'est des adolescents entre 14 et 17 ans et qui ont travailler aussi sur ce sujet-là. C'est pas facile aussi quand on veut parler de politique, de loi, avec des publics qui sont complètement différents. Souvent, le langage, il est pas adapté. Et donc, l'idée, c'était de, en tout cas pour le Radio Ado, de leur expliquer pour qu'ils puissent aller sur le terrain. Et donc, pour en revenir aux habitants, c'était assez intéressant de voir cette mobilisation, parce que on a même des jeunes qui sont venus aussi s'intéresser à ça et qui sont allés couvrir en direct un événement sur Vin de Bretagne. Voilà, et on les a fait passer en direct. Donc quand on dit que les jeunes s'intéressent pas à la politique, ils s'intéressent
pendant les soirées électorales en fait. C'était des correspondants sur les soirées électorales.
C'est ça.
Les radios associatives, donc vous l'aurez compris, rend visible une société qui évolue et qui change notamment pour les acteurs du milieu associatif et les acteurs culturels, du social, et qui montre l'impact des choix politiques sur leur activité. C'est notamment le cas en Pays de la Loire. Eva Jarnot, avec pour Sun, il y a eu différents moments. Alors on l'a vu dans la presse nationale, mais on le voit et vous vous engagez au quotidien aussi localement. Avec l'arrêt des subventions du Conseil régional des Pays de la Loire pour les structures culturelles, notamment les radios, et le départ de FIP. Donc vous avez pris aussi les problèmes à bras-le-corps en disant quel est notre rôle de média. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ?
Donc sur les deux exemples nommés là, donc c'est des choses qui sont faites dans des temps différents. Enfin voilà, ça paraît important juste de le préciser. Donc oui, aujourd'hui en fait, la particularité du média radio sur notre territoire, mais je pense sur plein de territoires, c'est qu'en fait il est l'acteur qui est à la croisée d'un très grand nombre de secteurs et qu'il a la porte d'entrée pour un très grand nombre de secteurs. Donc soit les acteurs culturels, éducatifs, sociaux. Donc voilà, on est déjà l'interlocuteur premier de plein de gens. Et ensuite, sur l'aspect culturel, nous, la particularité qu'on a, c'est donc d'être sur différents territoires et de se retrouver face à des propositions culturelles complètement diverses et variées, avec certaines qui bénéficient déjà d'une mise en avant, qui ont déjà pignon sur rue dans des médias, on va dire, plus grands et sur des types de structures, des grandes salles ou enfin voilà des spectacles plus identifiés. Et on a un vrai enjeu de mise en avant en fait de tout l'écosystème plus associatif lié à la culture qui aujourd'hui a vraiment besoin de nous. Et donc c'est là aussi nous on a pris la suite et pris récupéré une mission de service public en fait à ce niveau-là, puisque sur la question de FIP que Charlotte évoquait, quand les antennes locales se sont arrêtées notamment à Nantes, mais en fait les structures culturelles n'avaient plus d'interlocuteurs au niveau du média radio en région. Donc en fait on a aussi pris le relais de cette visibilité-là, puisque c'était un espace de visibilité très important pour les structures culturelles qui s'est arrêté du jour au lendemain, qui a été combiné en plus au Covid. Donc voilà, c'était là, il y avait un vrai besoin de soutien. Donc aujourd'hui, on est vraiment, nous, en lien direct avec ces structures-là, en discussion avec elles aussi, pour être en phase avec les besoins qu'elles ont. Et donc voilà, on vient remplir une mission vraiment du quotidien, de valorisation, d'échange avec tous ces acteurs.
Alors pour finir, parce que le temps passe et si on veut vous laisser quelques minutes pour des questions, si nous devons faire la démonstration de l'utilité des radios associatives aujourd'hui dans la vie démocratique des territoires, c'est parce que certaines et certains en doutent. En conclusion, je pose la même question à mes invités. Comment convaincre ?
Déjà, moi j'aimerais bien qu'on soit plus les seuls, comme très souvent, aux conférences de presse aujourd'hui. Si les journalistes des radios du groupement en Limousin n'étaient pas présents en conférence de presse, on aurait énormément de mal à relayer tout un tas d'initiatives des acteurs locaux. Ça, c'est indispensable. Si on disparaît, en fait, c'est tout un pan de la vie des territoires qui va purement et simplement être anonymisé, voilà, et qui n'aura plus de visibilité.
Quelqu'un d'autre sur comment les convaincre?
Nous, à Douai, on a une radio qui est très engagée dans le respect et le débat de la démocratie. Elle cache pas ce qu'elle combat, toujours dans le respect de l'autre, mais c'est vraiment un acteur indispensable pour la démocratie, pour la jeunesse, pour la liberté de penser, pour la liberté d'informer, qui est très présente dans toutes les associations culturelles, associatives, auprès des jeunes, auprès des centres sociaux, qui fait vraiment un maillage extraordinaire, qui donne la parole à tous. Et c'est une association qui revendique au quotidien ce qu'elle peut combattre. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, en tout cas, on est fiers d'être à ses côtés.
D'autres prises de parole sur cette conclusion?
Je crois que la meilleure façon de comprendre une radio associative, c'est d'imaginer ce qui disparaîtrait si elle n'était plus là demain. Qui raconterait le conseil municipal d'une petite commune, qui annoncerait les événements associatifs, les initiatives citoyennes, les projets des jeunes, les actions des bénévoles. Qui donnerait la parole à une personne en situation de handicap, un agriculteur, un parent d'élève, à une association de quartier, à des élus locaux, pour expliquer une décision, un impact directement, qui impacte directement les habitants. Les radios associatives sont les médias du quotidien. Elles sont souvent les seules à être présentes, là où les grands médias ne le sont plus.
Eva, pour scène.
Oui, ben, ça vient compléter ce que je disais à l'instant sur l'aspect culturel. En fait, sur des petits festivals, des petits événements, il n'y a aucun autre espace de visibilité aujourd'hui qui existe pour ce type de structure-là. Donc en fait, s'il n'y a plus de Radio Asso, il n'existe plus.
J'aimerais terminer sur un extrait d'une des tribunes de l'enquête de la Fondation Jean Jaurès vers des déserts médiatiques en France. La démocratie peut-elle survivre sans médias? Vous l'aurez compris, je vous incite à lire cette enquête. Celle de Fabrice Février, co-directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès, dans sa contribution intitulée « Du terrain à l'espace commun, réinventer le récit démocratique et médiatique ». Dans cet extrait, on peut remplacer le mot « médias locaux » par « radio associative », donc je vous laisse faire l'exercice en même temps. Donc, les médias locaux ne sont rien d'autre que des acteurs de légitimation du réel, reconnus crédibles et authentiques par une large majorité de nos concitoyens, presque une espèce en voie de disparition. Les médias locaux sont un antidote aux effets toxiques de la polarisation et de la fracturation de la société. Si vous avez des questions...